Bah justement, on voit souvent l'histoire de Jonas en forme de petit livre pour les enfants, n'est-ce pas? Et donc, venez mes enfants, venez. Je vous raconte une histoire toute drôle. Attention, une vraie histoire de la Bible. Parce qu'il faut préciser, chaque fois que tu racontes une histoire aux enfants, il faut dire, c'est une histoire, une vraie histoire de la Bible. Donc, on va raconter cette histoire. Jonas était aussi un messager de Dieu. Il est beau, il est vieux. Mais... Un jour, Dieu dit à Jonas, « Va à Ninive et dis aux habitants d'arrêter de faire le mal. » Mais Jonas n'aimait pas ces gens. Il partit en bateau dans la direction opposée. Oh là là, quel méchant. Une tempête se leva. Jonas dit au marin de le jeter dans la mer pour qu'elle se calme. Dieu envoya un grand poisson qui avala Jonas. Il fut sauvé de la noyade. Au bout de 3 jours, le poisson recracha Jonas sur la rive. Jonas avait appris une leçon. Il se rendit donc à Ninive comme Dieu le lui avait dit. À la fin, l'application. Mais attends, c'est quoi exactement l'application de cette histoire? Pour les enfants, il faut obéir à Dieu, sinon tu vas passer 3 jours dans un poisson. C'est un peu bizarre comme histoire, comme application, n'est-ce pas? Mais franchement, c'est quoi exactement l'application pour les enfants? Il faut obéir à Dieu. Est-ce que ça, c'est l'application? Vous pouvez réfléchir à cette question à travers de cette semaine. Et si vous pouvez expliquer cette histoire aux enfants, ça veut dire que vous le comprenez bien. Je vous le dis un peu plus loin dans la version de l'histoire selon la source, selon la Bible. Commençons juste avant chapitre 4. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il prit à l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis ? En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux que moi, pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Où se trouve la colère dans Jonas pour les enfants? Il n'y a pas de chapitre 4 dans les versions, les livrets pour les enfants. Mais pourquoi? Parce que c'est difficile, n'est-ce pas? Dieu se ralentit de sa colère envers Ninive et ça irrite Jonas au point de la mort. Il est prophète qui préfère mourir qu'accepter la miséricorde de Dieu. En fait, Jonas, il est homme compliqué. Jonas, c'est un livre compliqué. C'est un livre qui mérite bien d'être lu soigneusement. C'est ce qu'on va faire cette semaine. Pour les plus doués au calcul parmi nous, j'imagine qu'ils ont déjà constaté que le livre de Jonas n'a que 4 chapitres et qu'on a dans le planning pour cette semaine 6 interventions. Ça va aller, j'ai trouvé des choses pour nous occuper. On est tranquille. En fait, comme ça, aujourd'hui, on a du temps pour faire un bon contexte du livre. Et puis, vendredi, on peut faire plus de réflexions et applications. Donc, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va s'occuper plutôt avec ce qui est autour de Jonas, le contexte. Et chez les JBU, on a une méthode. Peut-être vous avez entendu parler. Il s'appelle OIA. Le fameux OIA. Et dans l'étape d'observation, on fait des observations sur le contexte. Commençons donc au début. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc peut-être ça c'est un peu trop loin dans le passé. Ça va prendre du temps. On considère le contexte de Jonas en 3 étapes. L'histoire de l'Alliance, l'histoire du roi et le prophète Jonas lui-même. Donc pour l'histoire de l'alliance, l'alliance entre Dieu et son peuple est l'un des plus importants thèmes dans la Bible. En fait, l'alliance est plus qu'un thème, c'est aussi l'arrière-plan dans ce qui se passe à tous les événements de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Dans l'alliance, on trouve l'essentiel. On peut dire plein de choses sur l'alliance, mais en effet, c'est assez simple. L'alliance est la relation entre Dieu et son peuple. Une relation où Dieu est Dieu du peuple. Et le peuple est peuple du Dieu. Donc c'est un peu bête de dire d'une telle façon, mais c'est vrai. En cette relation a été établie par une promesse de Dieu. On a la création, puis malheureusement on a la chute. Et pour rétablir sa création, Dieu, il a un plan. Il a l'idée de rétablir la création à travers une alliance, une relation avec un peuple choisi. À l'initiative de Dieu, il a établi une alliance avec Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu appelle Abraham. Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est assez grand comme promesse, n'est-ce pas? Il y a l'aspect d'être une grande nation, la nation de Dieu, le peuple de Dieu, puis la promesse d'être béni aussi, d'être une source de bénédiction. Puis au chapitre 15, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Le pays des Cananiens, des Kénéziens, des Cadmoniens, des Hittites, des Périséens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guéréziens et des Jébusiens. En fait, ça nous montre que c'était bien planté dans l'histoire. En fait, la promesse, la terre a promise, c'est bien une location précise. Dans l'alliance avec Abraham, on a trois promesses du coup. Et ces promesses, Dieu, il a fait inconditionnellement. Premièrement, on a la promesse d'être le peuple de Dieu, une grande nation. Deuxièmement, la promesse d'être la terre. De la promesse de la terre, le pays. Et troisièmement, la promesse d'être sous le règne de Dieu et sous ses bénédictions. Après Abraham, on a quelques événements. Puis on a la sortie d'Égypte, où Dieu a racheté son peuple de l'esclavage pour les planter dans la terre promise. Parce que d'être esclave en Égypte, ça ne conforme pas forcément aux promesses de Dieu. Donc il les a fait sortir d'Égypte à travers des miracles, puis à Sinaï, il leur a donné la loi. C'est bien après l'établissement de l'alliance, donc ce n'est pas une condition pour rentrer dans l'alliance, la loi, mais la loi est plutôt les stipulations pour vivre dans l'alliance. La description des gens qui habitent dans cette alliance avec Dieu, cette relation avec Dieu. Il les a fait sortir d'Égypte. Il les a guidés vers la terre promise. Et juste avant d'entrer dans la terre, Moïse, le grand prophète de Dieu, donne une bonne prédication à la frontière de la terre promise. Et ça, c'est le livre de Deutéronome. On va voir dans Deutéronome chapitre 8 maintenant. Donc, ouvrez vos Bibles à Deutéronome chapitre 8, des versets 11. Donc ça c'est de Moïse, juste avant de rentrer dans la terre promise. De verset 11, il dit, Veille bien à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à la satiété, lorsque tu construiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans le grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les endroits arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes ancêtres, afin de t'humilier et te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Mais si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et suis d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Donc tout d'abord, il raconte ce que Dieu a fait pour son peuple. Il y a beaucoup de ce genre de répétition dans ce livre de Deutéronome. Ils connaissaient l'Éternel, le nom personnel de Dieu, parce qu'il leur a révélé. L'Éternel s'est révélé à travers de ses actes pour son peuple d'Israël. Ils ne sont pas seulement le peuple qui a hérité les promesses données à Abraham. Ils sont les bénéficiaires de ces promesses en étant sauvés de l'esclavage, en étant guidés à la terre promise, en entrant dans la terre. Ils sont bénéficiaires de ces promesses. Ils sont constitués peuple de l'Éternel grâce aux actes gracieux de Dieu, de l'Éternel. Mais il existe un danger. Une fois que le peuple est bien établi dans la terre promise et que tout se passe bien pour eux, la tentation, c'est d'oublier tout ce que l'Éternel a fait pour eux. La tentation, c'est de penser qu'ils sont eux-mêmes puissants, capables de gagner leur vie. Ce n'est pas seulement une tentation intellectuelle, mais Moïse dit, fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et ma puissance, la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. C'est une tentation d'échanger la place de Dieu avec une sorte d'autosuffisance, une tentation de glorifier celui qui est béni au lieu de glorifier celui qui donne la bénédiction. Cet avertissement est toujours pertinent, surtout pour nous qui habitons un pays riche, nous qui vivons les vies bénies. Quand la vie est belle, quand les choses sont merveilleuses, qu'on a du succès dans la vie, on a la tentation de dire bah, c'est moi, je suis capable, j'ai passé ces examens, j'ai fait tel truc, c'est moi. On oublie Dieu. C'est une tentation pas seulement intellectuelle, mais une tentation du cœur. Ça, c'est un peu le contexte sur l'alliance. Mais dans l'alliance, il y a aussi le rôle très important du roi. C'est développé surtout avec le roi par excellence, David. Le roi avait un rôle important parmi le peuple de l'Éternel. Il n'était pas seulement le chef du peuple politiquement, mais il avait un rôle dans la religion d'Israël, c'est-à-dire dans l'alliance. D'une certaine façon, le roi était le représentant du peuple à l'Éternel, et aussi dans l'autre sens. Le roi devra être sous la souveraineté de l'Éternel. Malheureusement, beaucoup de rois se sont placés à la place de l'Éternel. David, il était bon roi, malgré ses fautes qu'il a confessé. Il a cherché à suivre l'Éternel avec tout effort. Il n'était pas parfait, mais il s'est soumis à l'Éternel, à la souveraineté de Dieu. Par contre, son fils Salomon, il n'était pas aussi heureux. Pendant le règne de Salomon, on voit l'accomplissement de beaucoup de promesses de Dieu. La conquête de la terre promise était progressive, mais au moment du règne de Salomon, la terre, le territoire d'Israël n'était jamais aussi grand. Israël était un grand pays au niveau de la population, comme promis. Le territoire était immense, comme promis. Et Israël a bien profité du temps de bénédiction, comme promis. Mais comme promis, comme Moïse a prévu en Deutéronome 8, en profitant des bénédictions, Salomon s'est détourné de l'Éternel. Cette décision que Salomon a fait, ça a commencé à avoir un impact sur la nation d'Israël. Là où voit le roi, il suit la nation. À la fin de sa vie, Salomon a établi les lieux pour les autres divinités en Israël, pour plaire à ses femmes étrangères. Le même roi qui a construit le temple de l'Éternel a établi les lieux d'adoration pour les divinités étranges. Le détournement de Salomon a commencé un modèle que les autres rois ont suivi. Après le règne de Salomon, il y avait un schisme en Israël et Israël s'est divisé en deux parties. La partie au nord s'appelait, attention parce que ce n'est pas très logique, donc Israël divisé en deux parties, la partie au nord s'appelait Israël. C'est un peu bizarre. Et puis la partie au sud s'appelait Juda, parce que c'était principalement composé par les tribus de Juda. Donc si vous voyez le mot Israël avant le schisme, c'est toute la nation d'Israël, mais après le schisme, Israël est normalement la partie au nord. La situation, ce qu'on trouve dans Jonas. Mais la problématique pour le royaume du nord, c'était que Jérusalem, avec le temple de l'Éternel, se trouvait dans le royaume du sud. Le temple était le seul endroit autorisé pour faire un culte à l'Éternel. Toutes les prescriptions de la loi concernant le temple pour vivre dans l'Alliance, tous les systèmes de sacrifice, tout ça se faisait dans le temple, en Juda. Ça posait problème pour Jéroboam, le roi du nord d'Israël. S'il laisse son peuple retourner à Jérusalem pour faire leur culte, il avait peur que le peuple changerait son alliance encore vers le royaume du sud. Et Jéroboam, il était malin, un bon politicien. Voici ce qu'il a fait face à ce problème-là. 1 Roi, chapitre 12. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua deux veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait si longtemps que vous montez à Jérusalem, Israël. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un des veaux à Bethel et donna l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Il présente comme une solution au peuple. C'est difficile d'aller à Jérusalem, n'est-ce pas? Vaut mieux de rester en Israël, tout près chez vous. Bethel se trouvait au sud d'Israël et Dan à l'extrême nord, donc dans les deux côtés d'Israël. Mais quel mensonge! Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas une autre religion qui vient de nulle part. C'est une perversion de l'Alliance. Vous voyez comment il a mélangé la politique et la religion. Il a fait quelque chose qui est politiquement expédient, mais religieusement abominable. Et vous voyez aussi comment sa décision a amené le peuple au péché. Le rôle du roi, c'est de garder le peuple à suivre l'Éternel, mais ce roi a décidé de se détourner de l'Éternel. Et il amène le peuple avec lui. Ce péché reste pendant l'histoire des rois le standard pour évaluer les rois. Soit les rois suivants continuent ce genre de péché, soit ils renoncent ce péché d'idolâtrie. Donc finalement, on arrive à notre roi, Jéroboam le deuxième. Donc on parlait de Jéroboam premier, mais maintenant Jéroboam deux, le roi dont Jonas était prophète. Dans le livret, c'est marqué un roi, mais ce n'est pas un roi 14, c'est deux rois 14. Mais c'est un peu bizarre parce qu'un roi 14 parle de Jéroboam premier. Donc ne confondez pas. Donc, tournez au deuxième roi, chapitre 14. Ça, c'est la seule référence hors de Jonas à Jonas, le prophète. Se trouve ici. Donc, de chapitre 14, verset 23. La quinzième année du règne d'Amizia, le fils de Joas, sur Juda, Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie. Samarie, c'est la capitale d'Israël, le royaume du nord. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, le fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée d'Amath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Les critères pour évaluer Jéroboam II, on les voit au verset 24 et 25. Il n'a pas rejeté le mal de Jéroboam I, où il a fait pécher Israël. Mais, par contre, verset 25, il a fait grandir le territoire d'Israël. On a en même temps deux situations opposées. Il avait beaucoup de progrès au niveau du territoire, il y avait de la paix, il y avait des richesses en Israël, mais au niveau de la religion, ce n'était pas sincère. Selon les autres prophètes du même roi, Jéroboam II, Osée et Amos, la religion en Israël était vide et vaine. Il y avait des richesses, mais pas de bonnes relations avec l'Éternel. La religion était superficielle, comme le peuple préférait les richesses que suivre l'Éternel, tout comme Moïse a prévu. Donc voilà le contexte pour Jonas le prophète. Le milieu dans lequel il doit exercer son ministère. Le ministère d'un prophète n'est pas principalement de parler de l'avenir. Ce n'est pas pour faire des prévisions du futur, mais principalement, les prophètes fonctionnent à rappeler le roi et le peuple de l'alliance. Les prophètes font appel à revenir à l'alliance une fois que le peuple se détourne. On imagine donc, dans le contexte de Jéroboam II, où le peuple a oublié celui qui a donné toutes ses bénédictions, un contexte où la religion était superficielle. On imagine qu'un prophète comme Jonas va appeler le peuple à revenir à l'alliance. Mais le livre de Jonas ne se passe, sauf peut-être pour le premier verset, le livre se passe en dehors d'Israël. Quel bizarre livre! Pour moi, avec un livre comme ça, une grande question se pose. Qui sont les destinataires? Comment Jonas est-il prophète pour Israël si son message est pour Ninive? Il n'y revient pas en Israël avant la fin du livre. Il est facile de traiter ce livre comme c'est écrit directement à nous. En tant qu'application, il est facile d'interpréter ces événements hors du contexte d'Israël, parce qu'il n'est pas en Israël, n'est-ce pas? Évidemment, ce n'est pas mon avis, c'est pourquoi on a fait un bon contexte ce matin. Suite à la question de quel destinataire, une autre question se pose: qui a écrit ce livre et quand? Normalement, on estime que Jonas lui-même a écrit ce livre, mais il n'a pas écrit ce livre pendant les événements. qui raconte. Il a dû écrire après les événements. Mais Jonas se présente un peu durement, voire brusquement. Il nous faut une façon pour réfléchir au processus par lequel le livre nous est arrivé. Je veux dire qu'on peut parler de Jonas, le personnage dans le texte. C'est le Jonas qui s'enfuit de l'Éternel au chapitre 1. C'est le Jonas qui est passé 3 jours dans un poisson, chapitre 2. C'est le Jonas qui a été irrité par la miséricorde de l'Éternel au chapitre 4. Ça, c'est le Jonas, le personnage. Mais on peut également parler de Jonas, l'auteur. Celui qui a présenté Jonas, le personnage, un peu comme un imbécile, on peut dire. Cette distinction nous permet de poser les questions sur l'intention de l'auteur envers ses destinataires. Justement, quel destinataire? Rappelez-vous le contexte. Les destinataires ne sont pas les gens de Ninive. Ce livre n'était pas écrit pour eux. Dans un premier temps, ce livre est écrit pour le peuple d'Israël, dont Jonas était prophète. Son rôle est d'être prophète pour le peuple d'Israël. Et donc, il a écrit ce livre pour eux, pour les rappeler de l'Alliance, pour les appeler à retourner vers l'Éternel. Je trouve ce livre assez subtil dans cette interaction entre Jonas le personnage, Jonas l'auteur, et comment ce texte fonctionne pour Israël. Donc, comme pour les autres textes de l'Ancien Testament, on va poser tout d'abord une question d'application pour les premiers lecteurs, pour Israël, avant de passer à nous. C'est ce qu'on va faire cette semaine. C'est toujours important de le faire dans n'importe quel texte de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Mais je veux dire que c'est surtout important pour profiter au maximum de ce livre. Donc ça, c'est un petit peu d'introduction. Je sais qu'on n'a pas beaucoup creusé le texte de Jonas, mais comme je disais, on a du temps pour le faire. Donc je crois que ça suffit comme introduction. Maintenant, on peut prier ensemble. Prions. Merci Père Céleste pour tes promesses. Merci que tu aies promis une bénédiction pour ton peuple. Merci pour l'alliance dans laquelle ton peuple pourrait vivre en relation avec toi. On te reconnaît parce que tu nous as parlé à travers de ta parole et surtout en Christ. Donne-nous de bien comprendre ta parole. Donne-nous de bien travailler ta parole cette semaine ensemble, dans les séances variées, dans les DAB, dans les ateliers, dans les formations, pour qu'on puisse mieux te connaître, pour qu'on puisse mettre en pratique ta volonté. Protège-nous du danger de t'oublier quand la vie est pleine de bénédictions. Donne-nous les cœurs reconnaissants à toi. Celui qui nous a bénis. Nous sommes très reconnaissants à toi. On prie dans le nom de Jésus. Amen.